Alors, je vais lire le texte. Nous sommes dans la deuxième lettre de Pierre, au premier chapitre, des versets 12 à 21. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors méditez ce texte après une semaine de cours à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, ça fait du bien, parce que tous les cours n'étaient pas dans notre même veine théologique. Hein. Comprenez bien que, je rappelle que la théologie libérale fait en général de la Bible un livre de mythes et de légendes. Et de Jésus, finalement, un personnage qui est tout aussi important que Bouddha. Hein ? Donc, ça m'a fait du bien. Mais la théologie libérale n'existait pas à l'époque. Par contre, il existait un autre courant qui s'appelait les gnostiques, le gnosticisme. C'est un peu différent. En fait, les gnostiques pensaient qu'ils possédaient un secret particulier, dissimulé aux gens ordinaires. Vous voyez ? Ils étaient un peu l'élite de la pensée. Ils croyaient avoir le secret pour déchiffrer l'Écriture, pour déchiffrer les choses de Dieu. Et donc, ça ressemble un peu au libéralisme, quelque part. Hein, c'est vrai, parce qu'ils pensent qu'ils ont tout compris. Hein. Nous, pour eux, nous sommes des fondamentalistes. Hein. Et à mesure que le christianisme s'est répandu, les gnostiques ont mélangé certaines doctrines et divers éléments du christianisme avec leurs propres croyances, transformant ainsi le gnosticisme en un christianisme déguisé. Dans son livre, L'histoire Oxford du christianisme, John McManus écrit sur le mélange effectué par les gnostiques des croyances chrétiennes et mythiques. Il dit « Le gnosticisme était, et il est toujours, une théosophie composée de nombreux ingrédients, l'occultisme, et le mysticisme oriental ont été fusionnés à l'astrologie et à la magie. Ils ont recueilli des phrases de Jésus, recomposées, pour coïncider à leur propre interprétation, comme d'ailleurs dans l'évangile de Thomas. Vous avez déjà entendu l'évangile de Thomas parler de cet évangile-là, un évangile apocryphe. Et ils ont offert à leurs adhérents une forme de christianisme alternative et rivale du christianisme originel. Pour que leur système de pensée puisse se fusionner avec le christianisme, en fait, ils réinventaient Jésus. Ils réinventaient Jésus, ils lui enlevaient d'une part son humanité, mais en même temps, ils lui enlevaient sa divinité. On peut dire que cette seconde épître de Pierre, eh bien, elle est là pour encourager les chrétiens non seulement à développer leur caractère, notre caractère d'enfant de Dieu, mais aussi pour nous souvenir de qui est Jésus-Christ dans l'attente de son retour. On va dire que la deuxième épître de Pierre, elle est vraiment centrée sur ça. Développer notre caractère chrétien, mais centrer notre pensée et notre vision de qui est Jésus-Christ dans cette attente qu'il va revenir. D'où ce que Pierre dit au verset 12, « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » En fait, les considérations que Pierre soulève ici sont importantes. Si les premiers chrétiens avaient besoin qu'on leur rappelle ces choses-là, à combien plus forte raison nous en avons besoin nous aussi, n'est-ce pas ? On a besoin d'être affermis. Parce que finalement, si on réfléchit bien, on court le danger de la relativisation des choses, de la banalisation des choses, la banalisation de notre foi, du développement de notre caractère chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien ? Qu'est-ce que ça signifie ? Simplement dire aux autres « je crois en Dieu », mais ça change ta vie, ça change ta façon de fonctionner. Vous savez, beaucoup de gens étaient pauvres au début de l'ère chrétienne parce que ils refusaient le compromis. Et étant donné qu'ils ne voulaient pas aller au temple dédié à leur métier, parce que chaque temple, chaque métier avait un temple et une divinité qui leur était déniée, ben ils s'abstenaient de travailler. Vous savez, c'était un peu comme le, comment on appelle ça, la CGT, tout ça, vous savez, CFDT aujourd'hui. Vous voyez, les syndicats, voilà. Ben là, c'est un peu pareil. Si t'allais au temple, t'avais du boulot. Si t'avais pas, t'allais pas au temple, t'avais pas de boulot. Donc, ben, ils préféraient ne pas y aller. Donc, ils ne faisaient aucun compromis, n'est-ce pas? Donc, finalement, on peut se dire, ce que nous croyons n'a pas trop d'importance. Le principal, c'est de croire en Jésus. Il y en a qui disent ça. Ou alors, ben, on n'est pas si mal que ça. Que faire de plus? Franchement, hein, on est pas mal quand même. Qu'attendre de plus que de notre petite vie honnête, finalement, et droite? Ça va, quoi. Tout va bien. Et versets 13 et 14, Pierre dit, j'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans mon corps, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente, de mon corps, est imminent. Les premiers chrétiens avaient besoin d'être tenus en éveil. Y a-t-il un risque ? Ça, c'est la question que je me pose et que je nous pose. Est-ce qu'il y a un risque que nous tombions dans un sommeil spirituel ? À quoi ressemblerait ce sommeil ? C'est une bonne question. Le livre des Actes nous rapporte qu'un jeune homme nommé Éticus était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Il faut le faire, hein. L'apôtre Paul prêche, il t'endort. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage et il fut relevé mort. Bon, personne n'est assis sur une fenêtre ce matin. On risque rien. Mais peut-être qu'on peut être assis, finalement, sur le bord de la fenêtre de notre vie en Christ, en train de s'assoupir. Le temps passe. Il passe vite. Pour certains, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est vrai, ça fait des années. On a vu les cheveux blancs arriver sur nos têtes. On a vu nos enfants grandir. C'est vrai, hein ? Vous avez vu les miens grandir, j'ai vu les vôtres grandir aussi. Depuis quelques années, c'est pas rien quand même. Certains, ça fait peut-être 20 ans qu'on se connaît. 25 ans. D'autres, une dizaine d'années. C'est quand même pas rien, quoi. Nous avons même été témoins de quelques départs vers le ciel. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre ? Il avait dit, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera. » Ou tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et en voyant la fin de sa propre vie approcher, Pierre éprouve le besoin de préserver ses frères et sœurs de cet endormissement spirituel qui nous guette. Alors ce texte est aussi là pour nous tenir en éveil. Que sait-on sur la mort de Pierre ? Clément de Rome affirme que son martyre serait dû, je cite, à une injuste jalousie, et à la dissension entre les membres de la communauté chrétienne, comme s'il y avait eu une sorte de dénonciation. Selon un apocryphe, les actes de Pierre, et l'apocryphe de Thomas, et puis l'apocryphe de Pierre, il aurait été crucifié la tête vers le sol. Selon la tradition, l'apôtre aurait demandé ce type de supplice par humilité, ne se jugeant pas digne d'être crucifié comme son maître. Mais, en tout cas, au verset 15, Pierre nous dit « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez, en toute occasion, vous en souvenir. » Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez, en toute occasion, vous en souvenir. Il veut transmettre ce qu'il a vécu. Il veut transmettre ce qu'il a vu et entendu. Il y a des choses qui ont été dites, je crois que c'est par Luc, entre le verset 1 et 12, dans les salutations, par exemple. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. C'est un apprentissage. La grâce et la paix qui se multiplient dans nos vies. Et puis, il a parlé de sa divine puissance qui nous a été donnée, qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que nous avons été équipés, en devenant chrétiens, nous avons été équipés pour la vivre, cette vie chrétienne. Nous avons un équipement. Parfois, j'ai l'impression que je suis moi-même, je me parle à moi, un peu comme mon chien. Son père est champion de France. Quand je l'amène dans un club, les gars des clubs, ils le relouquent, le chien, parce qu'il a un potentiel énorme. Mais voilà, son maître, il ne travaille pas le chien comme il devrait le travailler. Et le chien, finalement, c'est un bon chien, qui obéit, quand même, qui pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais voilà. Et des fois, j'ai l'impression que je suis un peu comme lui. Et pourtant, je suis peut-être équipé pour faire certaines choses et je ne les fais pas. Tu te sens pas un peu comme ça des fois? Tu sais pas qu'au fond de toi, tu as du potentiel et que le Seigneur t'a donné tout ce qui peut contribuer à la vie, à la piété, mais il y a ce mais qui vient là parce que pour raison X, Y. C'est quand même terrible. Après, Pierre nous dit que nous avons reçu en même temps les promesses les plus précieuses, les plus grandes qui soient. Et c'est en fuyant le monde, non pas ce qu'il est, mais ses aspirations, en renonçant à sa convoitise, que nous approchons du Seigneur, on s'approche de lui, et on participe à ce qu'il est, à sa nature. Pas question de se renfermer dans un couvent, n'est-ce pas ? Mais de nous détacher de nos cœurs, dans nos cœurs, de ce qui constitue notre société. Cupidité, égoïsme. Et puis, il continue, à cause de ces choses, Pierre nous dit que nous développons le caractère chrétien, celui de disciple, en faisant des efforts, non pas par nous-mêmes, mais parce que Christ vit en nous, en joignant à notre foi professée, vécue, la vertu, à la vertu, la connaissance. C'est ce qu'il a dit, je pense, lui, qu'il a parlé de ça. Et en fait, un théologien du nom de Bengel dit ceci, il dit « Ces fruits de vie chrétienne sont présentés en gradation, le précédent produit le suivant et le rend facile. » En fait, et le subséquent tempère le précédent et le rend parfait. Les uns s'imbriquent dans les autres. C'est intéressant. C'est intéressant. La foi est la racine sur laquelle croit la vertu. La vertu, c'est la racine sur laquelle croit la connaissance. La connaissance, c'est la racine sur laquelle croit la persévérance. Mais tout part de la foi. Et Pierre, dans cette lettre, il est en train de renouveler notre foi. Il est en train d'essayer de nous redonner foi, de nous redonner confiance en ce en quoi nous croyons. Rien à voir avec la fac de théologie libérale. Tu rentres, tu as la foi, tu ressors, tu l'as plus. Beaucoup, ça leur est arrivé. Alors, on ne va pas redire ce qui a déjà été dit, mais d'une certaine manière, Pierre fait l'inventaire spirituel de nos vies. Il va maintenant appuyer son discours en nous rappelant la réalité qui échappait aux gnostiques et à certains théologiens de notre temps. On revient au verset 15. « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. » Souvenir de quoi ? Et là, on passe des versets 16 à 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. D'abord, ou peut-être, je ne sais pas. Pierre est en train de nous dire, mais on n'a pas rêvé. On n'a pas déliré. C'est pas bidon. C'est vrai. Nous n'annonçons pas des mythes comme le font les païens concernant leur divinité. L'apôtre Paul faisait déjà cette allusion à son disciple Timothée quand il disait « Ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. » Et Jean, dans sa première lettre, souvenez-vous ce qu'il disait. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous l'avons vu, Hérodie, et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » La foi chrétienne, notre foi, elle est basée sur des faits historiques. Elle est basée sur des faits. Le christianisme fait appel à l'histoire et aux faits de l'histoire. Ce n'est pas des mythes. Nous ne croyons pas à des mythes. Nous croyons à des faits. Un certain Charles Pinnock dit ceci, « Les faits appuyant les affirmations chrétiennes ne se composent pas de faits religieux. Ce sont des faits cognitifs, informationnels, sur lesquels sont basées toutes les décisions historiques, légales et courantes. » Ce n'est pas une philosophie, la foi chrétienne, qui fait appel aux philosophes humaines. Non. Ce n'est pas une foi basée sur des mythes ou des légendes. La foi chrétienne est une foi objective, et Pierre est en train de nous le dire, c'est une foi qui a un objet, Jésus de Nazareth. Ça, c'est l'objet de notre foi. Une foi en qui il était, le Fils de Dieu, le Christ. Une foi en ce qu'il a fait. Il est ressuscité le troisième jour, on l'a chanté. Et ce en quoi l'on croit est une importance vraiment capitale. Hein. C'est capital. Le cliché, ce en quoi vous croyez n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous croyez en quelque chose. Vous entendez ça, non ? Mais ça, c'est incompatible avec la foi chrétienne. Le libéralisme va dans ce sens-là. Le principal, il y a des gens dans le monde qui aiment plus que les chrétiens. Donc le principal, c'est pas la religion, c'est d'aimer. On utilise la Bible pour ça. D'ailleurs, c'est même pas la foi en elle-même qui est importante. Je me contredirais presque avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que Jésus a souligné que c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. En fait, l'important, c'est sur qui notre foi est basée. Nous croyons, comme le souligne Pierre, en celui qui a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et il ajoute, pour appuyer son propos, « Quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Vous savez de quoi il fait référence, la Pierre ? Il est en train de parler de la transfiguration. Cette expérience fantastique qu'il a vécue. Entre le sixième et le huitième jour, après avoir reçu la confession de Pierre et prédit ses souffrances, Jésus conduit ses trois disciples, les plus intimes, sur une haute montagne, où toute sa personne va resplendir la gloire. Toute sa personne va être illuminée de la gloire de Dieu. Moi, j'aurais aimé être là. Quelle expérience ! Un théologien libéral, du nom de Bultmann, affirme qu'il s'agit du récit d'un mythe ajouté à l'Évangile par la deuxième génération de chrétiens. La transfiguration. Un mythe. Le père de l'Église, Tertullien, lui y voit le récit d'une vision accordée aux disciples pour affermir leur foi. nous, nous croyons que c'est vrai. C'est la réalité de l'expérience de Pierre. C'est ce que Pierre a vécu. Tout simplement parce qu'il en parle en démystifiant cette expérience. Ce n'est pas par des fables. On a vu, on a entendu. Il démystifie ça. Je ne comprends pas comment un théologien peut arriver à dire ces choses-là sans lire ce que Pierre écrit. Parce qu'il y a l'histoire de la transfiguration et il y a ce que Pierre en dit. Et vraisemblablement, Pierre, il est en train de dire ça. Ce n'est pas par des fables. Et Pierre associe alors son expérience non seulement à la prophétie, mais au retour de Jésus-Christ, comme je le disais au début. Et on lit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pour Pierre, la prophétie et la transfiguration attestent la vérité de l'enseignement des apôtres, qui touche au retour du Seigneur. On appelle ça la parousie, le retour du Seigneur. Et en fait, on va voir qu'au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude de cette épître, on va le voir par la suite, hein, que Pierre se lance dans une véritable polémique contre les faux docteurs qui ne croyaient pas au retour du Christ. Tout comme les gnostiques, tout comme les théologiens libéraux d'aujourd'hui, ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient même pas à la résurrection. Comment peut-on croire à son retour ? Vous savez, cette lettre n'est pas une lettre en l'air, hein, je dirais sous-entendu une parole en l'air. L'apôtre rappelle à ses lecteurs qu'il a assisté à la transfiguration, que cet événement est inscrit dans le temps et dans l'espace, et lorsque le Père a rendu un témoignage à son fils authentique, Pierre était là. Des fables habilement conçues, ben ça c'est ce que caractérisaient les théologies des spéculateurs de gnostiques de l'époque. Voyez la liaison que fait Pierre par rapport à la portée de la fin des temps. Il dit « Et, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Littéralement, le lieu obscur, c'est un lieu sale, desséché, jusqu'à ce que le jour commence à poindre. Alors, il y a une bonne nouvelle pour nous. L'issue. Pour nous, ce n'est pas les ténèbres de la nuit, sales, desséchées. C'est la lumière du jour. Tout ce qui est caché va être mis en pleine lumière. Quels que soient les événements qui arrivent, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons être amenés à vivre, quelle que soit la direction que notre monde est en train de prendre, quelles que soient les décisions qui peuvent être prises par, entre guillemets, une église. Pour nous, la lumière du jour est au bout. Et cette étoile du matin, c'est le Christ. C'est en fait le signe de son retour. L'étoile du matin. Il y a une étoile quand il est arrivé, et il y a une étoile quand il va revenir. Et en fait, à ce moment-là, peut-être, ça veut dire aussi qu'il y a des signes qui vont apparaître de la venue du Fils de l'homme, les signes de Matthieu 24. Dans les deux cas, je crois qu'on peut relever la tête, parce que notre délivrance se rapproche. Quand on va commencer à discerner certains signes, on pourra dire « la délivrance est proche ». C'est écrit. C'est écrit. Ce n'est pas un mythe, c'est la vérité, c'est la réalité. Et Pierre termine donc cette péricope par les versets suivants. « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jamais, mais jamais, une prophétie biblique n'a été apportée ou inspirée ou produite par la propre volonté de l'homme ou par son génie. Jamais. C'est pas là. C'est pas parce qu'ils étaient géniaux, ces gens-là. C'est pas parce qu'ils avaient découvert le truc que les autres n'ont pas. On a 12 petits prophètes, petits parce que par leur livre, hein, pas par leur grandeur. Hein. Osée, Joël, Amos, Abdias, bien d'autres, hein. Michel, Jonas, bon, Michel Jonas, le chanteur. Vous me suivez là? Non, ça va. Nahum. On entre dans le Nouveau Testament par le prophète de transition, le précurseur, Jean-Baptiste. On pourrait aussi étudier les prophètes du Nouveau Testament. Et ça sera pour la prochaine fois. Je ne sais pas qui c'est qui va en parler. Parce que le chapitre 2, les versets qui suivent, pour vous dire qu'on est vraiment là-dedans, hein, il commence par « Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduisent insidieusement des hérésies de perdition. » Vous voyez ? Bon courage à celui qui suit là derrière. C'est toi. tu vas t'amuser. Bon, mais en tout cas, voilà. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Je vais prier. Seigneur, merci de nous questionner au travers de l'épître de Pierre sur sur les dangers, Seigneur, qui sont là à notre porte en tant que chrétien. Les dangers de nous endormir, de banaliser les choses. Seigneur, merci aussi de nous rappeler que ce que nous croyons, c'est vrai. Ça tient le coup, ça tient la route. Merci de nous encourager au travers de ce rappel de ce que Pierre a vu sur cette montagne. Il t'a vu, toi, Seigneur, dans ta gloire. Et Seigneur, dans nos cœurs, nous voulons voir aussi ta gloire. Seigneur, merci de nous renouveler dans ta présence, de nous encourager à continuer à te suivre, à t'honorer, à t'aimer. Seigneur, encore merci pour ta présence ce matin. Peut-être que certains d'entre nous ont pu être touchés, peut-être jusqu'à se remettre en question devant toi. Seigneur, si tel est le cas, je t'en remercie. Merci parce qu'au travers de la préparation de cette étude aussi, tu m'as parlé et tu as touché mon cœur. C'est au nom de Jésus que nous te prions tous ensemble ce matin. Amen.